Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Je rappelle, c'est le titre de votre collection d'entretiens sur Canal. Hein, c'est ce lundi, en deuxième partie de soirée, 23h40, je crois. 22h40, pardon. Cette fois-ci, vous allez accueillir des romanciers et romancières autour de votre table. On a regardé ce numéro passionnant, mais est-ce qu'on peut vous faire quand même un reproche ?
Allez-y.
Un petit reproche.
Je suis venu pour ça, je vous le dis tout de suite. Je veux qu'on me reproche quelque chose.
C'est l'heure de dire.
Vous, je vous reproche de ne pas assez ouvrir votre chemise.
Ah, vous voulez
Allez-y.
Il est beaucoup trop tôt. C'est familier, cette émission.
Bonjour, revenu. Alors, le reproche.
Pour quelle raison vous êtes diffusé si tard ?
Ça, c'est une bonne question.
À poser aux dirigeants du Canal.
Je n'ai absolument pas la réponse à cette question, mais effectivement, c'est un peu tard. En même temps, aujourd'hui, avec le principe de la rediffusion.
Le replay ?
Oui, on le voit quand on veut.
Et alors pourquoi le précédent, le 8 mars dernier, c'était, je rappelle, des acteurs et actrices, vous étiez en prime time ?
Alors celui-là avait été diffusé en prime time parce que c'était au moment des Césars et que ça faisait partie de l'actualité de la semaine. Voilà, c'est la raison qu'on m'avait donnée. Mais je le répète, rien ne nous oblige à être assis devant son poste à 22h40. C'est bien parce que c'est la première diff, mais après, replay. Comme cette émission magnifique que vous n'avez pas ratée, évidemment, il y a un mois et demi.
Évidemment.
Mais donc, replay.
On n'a pas parlé ici.
C'est pas bien, ça.
En un mot, qu'est-ce que replay, donc ?
Alors, replay, c'était l'idée de reprendre les formats courts d'humour de Canal depuis qu'ils sont apparus, c'est-à-dire depuis Les Deschiens jusqu'à Bertrand Huskla, l'excellent Bertrand Huskla, que vous avez invité ici, bien sûr.
Bien sûr, on reçoit tout le monde ici.
Bertrand Huskla, génie.
Génie.
D'accord. Et donc, de les faire rejouer par d'autres comédiens.
Et alors ?
Eh bien, le résultat était épatant.
Épatant.
C'était vraiment très, très drôle. Et donc, je vous conseille de le revoir en replay. Sur ma canne.
Ah, vous avez compris, nous sommes en direct avec...
On part de loin.
Antoine Decaune sur Figaro Live. Je rappelle, diffusé sur le figaro.fr, mais également sur la page YouTube de TV Magazine. Que pensez-vous de cette collection profession qu'elle présente donc sur Canal ? Est-ce que vous aimeriez également voir à quel autre métier il pourrait s'intéresser, notre invité ? Est-ce qu'il vous monte également dans la Gaule d'Antoine ? On en parlera également tout à l'heure. Dites-nous tout. Mais en attendant, je vous propose écoutez tout de suite les news médias avec Damien Canivez. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe. Bonjour Antoine.
Bonjour Damien.
Alors, tradition.
Je vais essayer. Avant la fin. Quand on sera hors champ, j'ouvrirai un bouton pour vous.
On va peut-être faire les news médias comme si vous voulez.
Pardon, désolé.
Alors, la tradition oblige, on parle des audiences, non pas de la veille aujourd'hui, mais des audiences de samedi soir où il y avait The Voice.
Exactement. Et pour une fois, TF1 est monté sur la première marche du podium, figurez-vous. Et pourquoi ? Parce que la chaîne dégainait la finale de The Voice. C'était la 10e saison, l'épilogue de cette 10e saison. 5,4 millions de fidèles ont applaudi la victoire de Marguerite, soit 25,3% du public. Jamais une finale n'avait atteint un tel score, d'ailleurs, depuis 6 ans.
Mais alors, comment l'expliquer ?
Mais écoutez, c'est comme ça. C'était une très belle saison. C'était la finale. Alors forcément, ça cartonne. D'habitude, c'est France 3 qui est sur la première marche du podium avec Cassandre. Et bien là, cette fois-ci, France 3 est en deuxième position. Ça arrive avec Gwendoline Amont. 5 millions de fidèles, soit 20,6% du public. France 2 monte sur la troisième marche du podium avec N'oubliez pas les paroles. C'était le tournoi des maestros. Vous savez que les chanteurs qui connaissent toutes les paroles par cœur. D'ailleurs, on ne sait pas, ils ont appris les jaquettes par cœur des... Voilà. 2,5 millions de mélomanes quand même. Série indémodable aussi, on termine avec Columbo parce qu'il faut le souligner.
Columbo,
il est toujours là.
Combien
sur multi-rediffusé.
Combien
et bien près de 900 000 téléspectateurs, figurez-vous. C'est incroyable. 3,7
j'aimerais bien faire ça.
Mais vous le ferez, c'est sûr, c'est certain.
En imperméable. C'est Columbo. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un fan de musique. Est-ce que des émissions, en effet, de comme The Voice, ça vous êtes attentif ou pas, ou
pas
ça
du
vous
tout.
Passe pas, ça non. Passe à côté de vous.
Non, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que je suis généralement occupé à faire autre chose le soir. Mais j'aime bien les émissions de musique live. Voilà, c'est important.
Plus Nagui, donc.
Oui.
Taratata, par exemple.
Du moment que c'est live, du moment que je vois les gens en train de jouer, pas faire semblant de chanter ou chanter sur des bandes d'orchestre.
On poursuit ces infomédias avec une nouvelle qui vient de tomber. Oui. Miss France, terrible. N'a pas été sacrée Miss Univers.
Il est possible que vous ne dormiez pas cette nuit. Voilà, Antoine de Caunes a disparu.
Et pourquoi?
Voilà,
c'est la pourquoi
vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est comme ça. Déception ultime. Voilà, déception ultime pour Amandine Petit, notre reine de beauté nationale.
Je dis Amandine Petit.
Vous l'avez regardé sur Paris. Il faut savoir qu'Antoine de Caunes n'a pas dormi de la nuit. Il a regardé l'élection sur Paris Première. Elle était en direct.
Mais oui.
Et elle a perdu Amandine Petit. Mais faites-vous à cette idée-là.
Je m'en remets pas.
Bah oui, je sais, mais il va falloir vous fâcher ce deuil. C'est difficile. La candidate donc qui s'est imposée devant les 72 autres concurrentes, c'est Miss Mexique, Andrea Meza, qui portait donc cette écharpe. Elle a 26 ans, Andrea Meza, elle exerce la profession de mannequin. Elle a déjà participé d'ailleurs à un concours de beauté internationale, c'était Miss Monde en 2017. Elle avait même atteint la finale, donc voilà, il n'y a pas son premier coup d'essai. Elle devient la troisième candidate mexicaine à porter la couronne de Miss Univers. Alors vous vous demandez, Antoine de Caunes, quelle est la place d'Amandine Petit dans cette histoire?
Oui, eh bien, quelle est la place d'Amandine Petit?
Oui,
quelle
est, elle n'est pas dans le top 10, c'est ça?
Non. Ah non, elle n'est pas dans le top 10. Elle est arrivée dans le top 21, ce qui veut dire quand même qu'elle a réussi à passer une première élimination. Elle a échoué aux portes de top 10, mais franchement, dans le top 21, quand il y a 73 concurrentes, c'est quand même pas mal. Et on va rappeler que la dernière Française à s'être imposée dans ce concours Miss Univers, c'était Iris Mitnard. C'était pas si vieux que ça. Hein. C'est encore moins vieux que la dernière fois qu'une Française a réussi à décrocher l'Eurovision. C'était en 2016. C'était aux Philippines. Voilà.
Bravo.
Les Miss, donc
commentaire.
C'est pas...
commentaire.
Non, vous avez déjà suffisamment...
Je suis venu ici pour que vous m'appreniez ces nouvelles.
Elles sont mauvaises.
Je suis très déçu pour Mademoiselle Petit.
Oh,
très déçu.
Très joli.
Bah, oui, Miss c'est vrai. On l'a reçu ici. Hein.
Est-ce que vous avez présenté les Césars? Vous voyez bien présenter un jour les Miss?
Les Miss, Miss France. Non. On avait imaginé à un moment avec Jean-Paul Gaultier faire l'Eurovision, proposer nos services à l'Eurovision. Parce que là, on aurait
pu
s'amuser, oui. Qui est un moment assez kitschos.
Oui. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait?
Je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas insisté non plus. Hein. C'était une idée comme ça. Ça nous aurait amusé, nous, de le faire.
D'accord.
Mais je pense que ça m'amuserait moins aujourd'hui, peut-être. Mm. Voilà. Il y a 10 ans, dans la folie.
On termine par une nouvelle un peu plus grave.
Oui.
Avec Moundir, qui s'est confié pour la première fois depuis son hospitalisation à cause du Covid.
Oui, exactement. Vous connaissez, c'est le célèbre aventurier révélé dans Koh-Lanta. Il a choisi Nikos Aliagas et les caméras de TF1 pour sa première interview depuis sa sortie de l'hôpital. Moundir, qui est âgé de 47 ans, a été admis à l'hôpital Tenon en avril dernier à Paris à la suite de symptômes respiratoires. L'état s'est malheureusement vite détérioré, obligeant le personnel hospitalier à le placer en service réanimation. Et face à l'animateur de 50 minutes Inside, Moundir s'est rappelé avec émotion des instants qu'il a passés dans ce service et de ce médecin qui a expliqué qu'il n'avait qu'une chance sur quatre de s'en sortir. J'ai accepté mon destin, je disais toujours que le jour où je dois mourir, j'aimerais mourir comme mon père, digne. Voilà, c'est ce qu'il a confié face à Nikos Aliagas, précisant toutefois qu'il ne souffrait pas. Aujourd'hui, il faut savoir que même s'il est sorti de l'hôpital, il est en convalescence, il suit une rééducation assez stricte et il doit reprendre une vie normale, amoindrir les séquelles, comme par exemple les difficultés qu'il a à respirer, à se déplacer ou même à trouver le sommeil. Voilà.
Covid-19, ça a perturbé votre agenda entre la télé et la radio cette
perturbé,
année.
Ça a perturbé la vie de tout le monde et évidemment la vie de la télévision et de la radio. Enfin, oui, ça a compliqué les choses. Mais alors la bonne nouvelle, je suis animateur, je ne suis pas passé en réanimation.
Pas mal.
Non, elle n'est pas terrible. La bonne nouvelle, c'est qu'on reprend les tournages de La Gaule. Je sais que vous voulez qu'on parle de La Gaule.
Oui, exactement, avec les podcasts.
Voilà, à la fin du mois. Et on attaque par la Suisse romande.
La Suisse romande?
Oui.
Pourquoi ce choix?
Parce que on avait le choix entre soit aller vers des destinations lointaines, puisqu'on a couvert la France métropolitaine, donc maintenant il faut aller faire les îles, les dom-tom, mais c'est un peu compliqué les voyages en ce moment, donc on a choisi de commencer par la francophonie, donc on va faire la Suisse, la Belgique, et après éventuellement s'éloigner.
Mais ça passera à l'antenne ou ce sera uniquement en
podcast? Non, c'est juste pour moi. C'est pour,
juste
pour passer pour moi, chez moi, le soir.
Vos vacances filmées.
En me caressant. Hein. Non, c'est la Gaule d'Antoine, quoi. Évidemment que ça sera
diffusé.
On parle de podcast, on parle d'émission en première partie.
Ah, mais non, c'est autre chose, les podcasts. Nous en parlerons tout à l'heure.
D'accord, okay. Très bien.
Merci Damien pour ces news médias. Et place donc tout de suite à l'interview du Buzz Média avec Antoine de Caunes. On n'est pas parti.
Alors, il faut dire quand même à l'éventuel téléspectateur qui nous regarde, bonjour, que ces deux zigotos se sont collés à la caméra, voilà, pour que mon regard soit dirigé vers vous.
Voilà.
Je n'allais pas les voir là et là où ils étaient il y a un instant.
Les yeux dans les yeux, vous présentez un nouveau numéro de Profession ce lundi, 22h40 sur Canal. Après avoir tendu votre micro, donc les photographes, c'était le mois dernier, des acteurs auparavant, dont on a parlé tout à l'heure, vous intéressez désormais aux romanciers et romancières. Le choix des métiers, c'est pléthore. Hein. Qu'est-ce qui fait, quelles raisons particulières vous mettez les romanciers ou les romancières sous le feu des projecteurs?
On essaye avec cette émission à chaque fois de parler du cœur du métier, c'est-à-dire de la raison pour laquelle les gens font le métier qu'ils ont choisi. Donc après ce que vous avez cité, le point commun à toutes ces émissions, enfin la nécessité pour nous, c'est que les gens puissent verbaliser, en parler bien et que ça soit donc des métiers où... où il y a un petit peu de cérébralité qui ne soit pas juste des métiers très mécaniques. Quoi. Et donc le témoignage, ces témoignages-là, bah là aujourd'hui les romanciers et les romancières, je ne l'avais pas encore traité, ça ne m'était pas arrivé. Je crois que mon camarade Michel Lenisot avait fait une première édition avec d'autres romanciers, mais c'était il y a deux ans. Donc là, c'est les, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler des nouveaux romanciers, parce que certains ont la quarantaine. Dans tous les cas, des gens qui à peu près vivent de leur métier. Et l'idée, c'est d'expliquer comment on peut devenir romancier. Ce n'est pas de partir dans de longues considérations littéraires et philosophiques sur le métier d'écrivain. C'est de manière très pragmatique. Qu'est-ce que c'est que d'être écrivain aujourd'hui dans le monde, dans le monde.
On va citer les six auteurs que vous recevez, Négard Djavadi, Maria Pourchet, Johann Zarca, Myriam ouais. Leroy, Julien Dufresne-Lamy ouais. et Nicolas Mathieu, qui lui a reçu le prix Goncourt en 2018. Vous l'avez un peu dit, mais ce n'est pas ceux qui ont quand même le plus vendu aujourd'hui de livres en France. Pourquoi ce choix?
En dehors de Nicolas Mathieu écoutez, qui vend vraiment des livres en France aujourd'hui? Qui sont
Guillaume Musso, Marc Lévy?
Oui, certes. Mais là, l'idée, c'était d'avoir des sensibilités différentes et des approches différentes. Et puis, ce à quoi je tiens toujours beaucoup dans profession, c'est la parité totale. C'est-à-dire qu'il y a, là, j'ai trois romanciers et j'ai trois romancières. Donc, l'idée, c'est d'avoir justement des jeunes auteurs qui méritent d'être révélés, des valeurs confirmées, de mélanger un peu tout ça. Mais après, une émission sur les romanciers, on pourra en faire une tous les 15 jours.
Mais Guillaume Musso, vous n'auriez pas pu l'inviter?
J'aurais pu l'inviter, mais ce n'est pas du tout excluant, ou je ne me suis pas dit, je ne vais pas inviter Guillaume Musso. Pourquoi pas pour la prochaine? Oui, bien sûr.
L'invitation est lancée, donc.
Oui.
Damien,
surtout, j'ai croisé dans un jury littéraire l'année dernière, et on s'est très bien entendu, donc aucun a priori.
C'est dit. Une première question,
oui,
Damien.
Oui, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine. On peut poser toutes vos questions. Voilà, on est aussi sur le Figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions.
Je regarde la caméra.
Ah, vous pouvez regarder
la caméra.
Vous pouvez me regarder aussi, si vous voulez. On va poser la question de Samy. Est-ce que l'époque du Grand Journal vous manque? On rappelle que vous avez succédé à Michel Denisot sur Canal à la tête du Grand Journal. Ça vous manque?
Ah, le Grand Journal, pas nulle part ailleurs. On parle du Grand Journal.
Oui, du Grand Journal.
En fait, je suis. Je suis plutôt content même d'être sorti de l'œil du cyclone. Parce qu'il y avait une pression folle sur cette case, le fameux Access Prime Time. C'était une espèce de guerre au quotidien, à vérifier les courbes. Et donc, on se retrouvait dans des émissions qui étaient très, très sous la loupe. Et alors, évidemment, sur un plateau, avec du public, avec le direct, avec toutes les autres contraintes, qui fait que c'était une émission où il y avait des moments de lâcher prise et où il se passait vraiment quelque chose. Mais il y avait aussi beaucoup de moments qui étaient très mécaniques, où il fallait suivre un conducteur de 19h à 20h30 sans jamais y déroger. Et donc, cette contrainte-là, j'ai été ravi de la laisser de côté quand j'ai pu... D'abord faire cette petite émission, l'émission d'Antoine, qui était une émission un peu laboratoire, expérimentale, avec Monsieur Poulpe et toute la petite bande où on essayait des choses étranges. Et puis là, repartir sur le terrain avec la Gaule. Alors là, la Gaule, c'est le nom de l'émission. Là, c'est partir, retourner, voir les gens chez eux, passer des moments avec eux. Voilà, ça, c'est la télé que j'aime.
On revient aux écrivains et écrivaines. Au cours de l'émission, vous allez leur demander comment ils sont tombés dans l'écriture, d'une certaine manière. Vous allez aussi leur poser des questions très pragmatiques sur la façon dont ils abordent un éditeur, des éditeurs, l'ambiance dans laquelle ils écrivent, comment ils appréhendent leur métier. Leurs réponses, on va le découvrir, sont souvent différentes. Mais est-ce qu'ils partagent un point commun, quand même? Ou plusieurs points communs?
Le point commun, c'est la passion pour l'écriture. Je pense très sincèrement que ce sont, et ça vaut pour les six, ils ne pourraient pas vivre sans écrire. Et ce n'est pas, alors là, pour le coup, une figure de style ou une posture. C'est l'écriture, le passage par l'écriture est quelque chose d'essentiel pour eux. Ce n'est pas un choix circonstanciel. Ce n'est pas, tiens, je vais faire écrivain, on verra bien ce que ça donne. C'est une nécessité impérieuse.
Vous leur demandez également s'ils vivent de leur plume. Est-ce qu'ils sont riches ou c'est compliqué de joindre les deux bouts, finalement?
C'est compliqué de vivre de sa plume. Il faut vendre pas mal de livres. Et la plupart ont des boulots à côté.
Et à aucun moment donné, vous leur demandez précisément la somme d'argent qu'ils peuvent empocher pour l'écriture d'un livre. Ils vous l'ont dit en coulisses ou c'est tabou ?
Non, c'est pas tabou l'argent du tout dans la littérature. Je pense qu'il faut. J'ai pas de chiffres précis à vous donner là, si c'est la question que vous me posez. Mais c'est vous qui me l'a posé d'ailleurs.
Est-ce qu'ils vous ont confié le fait ?
Je sais plus, je suis perdu. Là. Il y a une caméra, il y a deux gigotos.
C'est l'autre côté de la force.
Non, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais je pense qu'au-delà d'un certain nombre d'exemplaires vendus, on peut vivre.
Mais ils ne se sont pas confiés sur ce sujet, en tous les cas.
Non, mais c'était pas l'objet. Honnêtement, ce n'est pas une question que j'ai cherché à éluder. Quoi.
Damien.
Allez, on salue Jean-Laurent qui est avec nous.
Et salut Jean-Laurent
qui est rend avec hommage nous. À votre bonne humeur légendaire.
Ah, merci Jean-Laurent. Voilà,
on va prendre une question de Max également, cette fois-ci sur Twitter, qui aimerait savoir.
Ah, Jean-Laurent, c'est juste salut lui.
Jean-Laurent, on salue.
Ah, ouais. Salut Jean-Laurent.
Jean-Laurent, okay. C'est.
Il n'y a pas de question Jean-Laurent.
Non, s'il a une question,
qu'il est. Heure,
manifestez-vous Jean-Laurent. Max aimerait savoir quel est le prochain numéro de Profession.
Alors, le prochain, dans un mois, ce sera les pâtissiers. Pâtissiers et pâtissières.
Pas mal.
Ouais.
Et pourquoi ? Pourquoi ce choix ? Parce que vous aimez les gâteaux ?
Pourquoi ce choix ?
Toujours cette question. Me connaît gourmand.
Non, je suis pas sûr gourmand, mais la pâtisserie est devenue un fer de lance de la cuisine. La cuisine a été beaucoup, beaucoup traitée. Et donc la pâtisserie, c'est un endroit, un lieu où, très créatif.
Ouais.
Très, très créatif.
Popularisé avec les émissions d'M6, notamment.
Aussi, évidemment, beaucoup, hein. Évidemment, grâce aux émissions d'M6. Mais les pâtissiers ont acquis un statut. C'est des artistes. Enfin, vraiment, ce qu'ils arrivent à proposer aujourd'hui en tenant compte de toutes les contraintes et les nouvelles conditions diététiques exigées par le public, ça fait une émission, là encore, très passionnante.
Vous avez vous-même écrit...
Là, vous ne me demandez pas quel est mon gâteau préféré.
Votre gâteau préféré.
C'est le baba au rhum. C'est un scoop. C'est un scoop.
Ça va défrayer la chronique. Ouais.
Prochaine invitation, vous accueillerez avec un baba au rhum dans le buzz.
On n'est pas combien gagné un pâtissier en plus, on s'en fout.
On revient à l'écriture. Vous avez vous-même écrit, je crois, deux romans policiers. C'était dans les années 90. Le titre, c'est bon, mais c'est chaud. Puis c'est beau, mais c'est triste. Le souvenir que vous gardez de cette expérience de l'écriture ?
Excellent souvenir. Ça devait être une trilogie avec ce personnage de Sam Murchison, qui était une parodie de détective et du genre, dans le genre hard-boiled, avec un type qui était super violent, ancien du Vietnam, qui tombait toutes les filles, qui buvait comme un trou, qui allumait club sur club. Enfin, il avait toutes les conditions réunies. Et ça devait être, alors, c'est beau, mais c'est triste. C'est bien, mais c'est chaud. Et je devais faire un troisième volet qui aurait dû s'appeler C'est bien, mais sans plus. J'ai pas eu le courage.
C'est vrai ? Pas le courage ?
Non, je passais à autre chose en même temps. Je passais à autre chose. Mais l'écriture, puisque vous me posez la question, est essentielle dans mon travail. C'est-à-dire que tout ce que je fais passe par l'écriture, que ce soit la radio, pour Pop Pop Pop, la télévision, la Gaule. Vous-même, ici, aujourd'hui, tout ce que je dis est déjà écrit.
Ah, trop
le saviez-vous ?
Oui. C'est fort.
Et oui. Alors, attendez, je consulte mes notes. Ouais, c'est ça, ouais.
Comment devient-on concrètement écrivain, se pose quand même, j'imagine, de jeunes qui veulent se lancer. Quel conseil vous donneriez justement à un internaute qui nous regarde et qui souhaite se lancer dans l'écriture ? C'est quoi la première recommandation ?
C'est d'écrire. C'est d'écrire. Non, mais je plaisante pas. C'est d'écrire, c'est d'avoir en soi ce besoin impérieux, comme je le disais tout à l'heure, de passer par l'écriture. Que l'écriture soit un canal indispensable. Quand je dis canal, c'est... y a ça. Ça, c'est la première condition. Ensuite, écrire tous les jours, se plier à ce qui est vraiment une discipline, parce que c'est un métier assez ingrat, l'écriture. On est seul à un bureau, à gratter, à chercher, à creuser. C'est difficile, c'est compliqué, c'est un métier difficile. Donc, je dirais écrire et essayer de trouver un écho auprès des gens autour de soi ou des éditeurs, si on en connaît, qui donnent un petit feedback. Quoi.
Forme de guide.
Mais vraiment écrire. Mais sinon, toutes les réponses à ces questions sont dans cette émission ce soir, 22h40, Canal+, Profession.
Ou en replay sur MyCanal également.
Alors, évidemment, en replay sur MyCanal.
La suite de votre
promo. Une question, Damien.
On va prendre une question de Maurice qui aimerait savoir si vos parodies avec José Garcia de l'époque de Nulle part ailleurs pourraient être encore diffusées à la télévision aujourd'hui.
Alors, en tous les cas, elles sont rediffusées en quasi-permanence. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait refaire ce type de personnage ? J'ai l'impression que oui. Ouais. J'ai l'impression que oui. Simplement, là, comme l'époque a bougé, la télévision a bougé, la sensibilité des téléspectateurs a bougé, enfin, beaucoup de choses ont bougé. Hein. quand je vous parlais de Bertrand Huskla tout à l'heure, je trouve que Huskla, aujourd'hui, à sa manière, avec sa tonalité, va aussi loin que certaines choses qu'on pouvait faire à l'époque.
Et vous aimeriez reprendre vos personnages emblématiques comme Didier Lambrouille, Raoul Bitambois ou Pinguin?
Ça serait pathétique. Mais là, si je reprends Didier, je fais « Hé ! Et petite tapette, là !» Non, mais on va me regarder comme un pauvre vieux sorti de l'EHPAD.
Pas du tout.
Mais je le vois dans votre regard.
On réclame beaucoup le retour des inconnus, par exemple.
Oui,
on
mais non, cette non, nostalgie. Non. Faut pas de retour.
Pas de retour.
Non, ce qui était bien, ce qui a été bien fait, voilà.
On va rester en l'état.
Après, on peut jouer avec. D'accord. Et ça, c'est peut-être pas exclu que...
Ah, que vous jouiez avec.
Peut-être, un de ces jours. Mais pas refaire, certainement pas refaire les personnages, ouais. Ça, je vous promets.
D'accord.
Jamais.
L'écriture, certains écrivains ont été désemparés au cours de la crise sanitaire, comme Philippe Labrouille-Ricknolo, que nous avons reçu d'ailleurs sur ce plateau. Au moment où leur livre sortait de l'imprimerie, le gouvernement choisissait de fermer les librairies pour, paraît-il, enrayer l'épidémie, en effet. Comment vous avez réagi, justement, lorsque vous avez appris que les librairies allaient fermer leurs portes?
Pour moi, c'était une catastrophe. La fermeture des librairies, ça a été un... Ouais. Parce que dans ma journée normale, je fais toujours une halte à un moment ou à un autre par une librairie. Alors que je reçois des bouquins pour l'émission à la radio, je suis à Brevet, tout, mais j'ai toujours ce besoin d'aller ouvrir des livres, les flairer,
toucher,
regarder, discuter avec les libraires. C'est aussi essentiel, pour reprendre le mot qui a servi par la suite, que, alors, c'est moins essentiel évidemment qu'une nourriture de type organique, mais c'est essentiel pour ma santé mentale. La fréquentation des livres est essentielle et donc des librairies.
Vous avez aimé la lecture, le gouvernement a fermé les librairies. Vous êtes acteur, le gouvernement a fermé les salles de cinéma. Vous adorez le rock, le gouvernement a fermé également les salles de concert. Le gouvernement en veut-il à Antoine de Gaulle?
Oui, je pense qu'il y a une persécution. Le gouvernement s'apprêtait d'ailleurs à fermer la télévision pour que je ne puisse plus exercer
MyCanal,
un de ses métiers. Et attendez, scoop, puisque vous voulez des scoops, et la radio.
Et la radio.
On est passé à ça. Donc évidemment que je l'ai vécu comme une persécution personnelle.
C'est dit. Bien.
Vous vouliez une question de Jean-Laurent?
Eh bien, oui, Jean-Laurent.
Question de Jean-Laurent. Ben voilà. Alors, il aimerait savoir ce que vous pensez de la nouvelle génération d'animateurs à la télévision.
J'en pense pas grand-chose. J'ai pas de jugement sur eux parce que d'abord le spectre est
assez large.
C'est large. Il y en a pour tous les goûts. Et ensuite, je le répète, mais je dis ça depuis toujours, mais c'est une fois de plus, c'est pas une posture. Je ne regarde pas vraiment la télévision. Ouais. C'est-à-dire je la sonde à droite, à gauche, je vois des trucs. Je vois, par exemple, Daphné Roulier sur LCP.
Que vous connaissez plutôt bien.
Ouais, qui fait des entretiens, mais absolument sublimes.
Ouais, les grands entretiens,
sont passés hier soir. Je ne sais pas si vous les avez vus, avec Cyril Dion, Claude Nourry, sur le thème de la résilience. Voilà, ça, c'est des très, très beaux moments de télévision. Mais sinon, honnêtement...
On en avait parlé, d'ailleurs, des grands entretiens dans cette émission, effectivement, sur LCP.
Et en reparler.
Je ne sais pas si les internautes l'auront remarqué, mais en lisant le bandeau, le titre de votre émission est proposé en écriture inclusive. Ouais. Vous êtes un partisan de cette nouvelle pratique sur laquelle il y a eu débat, notamment dans l'enseignement?
Alors, l'écriture inclusive elle-même, non. Ça me fait mal aux yeux parce qu'on avait, on l'avait fait pour acteur point RIS.
Ouais.
Ça faisait une espèce de mot visuellement
bizarre.
Même avec la meilleure typo du monde, ça ne marchait pas. En revanche, je suis pour qu'on insiste bien sur le genre de la personne qu'on en face de soi. C'est une auteure ou une autrice ou un auteur. Mais l'écriture inclusive elle-même, non, ça me fatigue les yeux. Moi.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a officiellement interdit l'écriture inclusive justement à l'école, car cela constitue selon lui un obstacle à la lecture et la compréhension de l'écrit. Vous partagez cet avis?
Si je partage un avis avec le ministre de l'Éducation nationale...
Sur l'écriture inclusive.
Sur l'écriture inclusive. Oui, moi je trouve... Mais c'est un point de vue très personnel. Moi je trouve ça compliqué à lire. Je trouve que ça casse la fluidité et puis ça pose une norme que je trouve lourde.
Mais pourquoi votre titre alors est en écriture inclusive? Vous ne voulez pas militer pour...
Parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de la communication, de la titraille, et que si on ouvre ces débats-là, on va passer plus de temps pour leur consacrer une émission aussi.
Bien sûr.
Damien.
Allez, on va prendre une question de Sonia sur la page YouTube de Télémagazine. Est-ce que Pop va continuer à la rentrée prochaine?
À la radio.
Inter, c'est votre émission.
Ça, c'est une question. Et ça, c'est un scoop. Je sens que vous êtes...
On est prêts.
À l'affût, tous les deux, vous êtes prêts?
On est prêts.
Attention, est-ce qu'il y aura une cinquième saison de Pop?
Oui, bien sûr.
La réponse est?
Oui.
Oui.
On a gagné?
Je ne sais pas ce que vous avez gagné. Mais...
Donc, on vous retrouvera à la rentrée de septembre prochain, fin août même déjà, a priori.
Oui, on débarque toujours une semaine.
Sur les ondes de France Inter. Mm-hmm. Un autre métier, hein, cinéma, vous serez à l'affiche du prochain film d'Alexandre Astier intitulé Kaamelott, premier volet, sortira a priori le 21 juillet 2021 après de longs mois d'attente. Vous reprendrez le costume du seigneur Dagonet. Quelle place allez-vous occuper dans ce film tiré, hein, on le rappelle, de la série autrefois diffusée à succès, hein, sur M6
À la place du seigneur Dagonet. Vous venez très justement de le rappeler. J'ai signé une clause de confidentialité à laquelle je dois me tenir parce que le seigneur Padagonet, notre roi bien-aimé, est.
Alexandre Astier.
Et comment dire,
sévère.
Au-delà du sévère. Oui, oui. C'est non, le mot sévère est faible. Il peut être cruel, sanguin, impulsif. Et je m'en voudrais d'abord de faillir à ma parole et ensuite de mettre en péril l'avenir de ce film que j'annonce magnifique.
Mais nous sommes prêts à toute forme de torture sur ce plateau.
Vous avez bien évacué notre question.
Allez-y, sur un petit bouton.
Votre personnage, on peut dire, il est particulièrement naïf, à la limite de la bêtise parfois. Est-ce que c'est jouissif de jouer parfois les gros bêtards?
Alors la question c'est, le personnage est un con, est-ce que c'est un rôle de composition? Allez-y directement.
Traduction.
Mais oui, mais perdons pas de temps. Évidemment que c'est jouissif. C'est évidemment que c'est jouissif de mec qui comprend rien, quoi. J'adore ça, c'est très, très drôle. Il est vraiment bouché, ouais, Dagonet, je vous le concède. Voilà, ça c'est une révélation.
C'est une révélation.
Enfin, il n'y a pas d'évolution dans le
caractère du
personnage. Oui, dans la nature,
du
personnage, si c'est ce que vous voulez savoir.
C'est parti.
Non, il n'a pas eu une révélation de ce coup, il ne s'est pas mis à penser.
On donne donc rendez-vous le 21 juillet pour en savoir un peu plus, et cette fois pas sous la menace, si j'ai bien compris. On termine cet entretien, Antoine Decaune, avec notre dernière rubrique qui s'appelle « Sucré-salé, c'est une torture ». Une torture, on vous soumet évidemment deux propositions et vous devez en choisir qu'une seule. Hein, choisir, c'est renoncer.
Allez-y.
Guillaume Musso ou Victor Hugo?
Alors, à partir du 4 juin, il y a donc la diffusion des podcasts de la Gaule d'Antoine sur ma canal et
c'est profession, là.
Les plateformes. Non, je parle du podcast de la Gaule d'Antoine. J'en profite. Et c'est une déclinaison audio, donc, de la Gaule, avec plein de petits sujets différents que vous n'aurez pas vus dans les émissions de télé.
C'est très important. Donc, des morceaux originaux.
Ah oui, avec des interviews originales, avec des sujets pas piqués des hannetons, comme par exemple ce groupe de métal sataniste de Grasse.
De Grasse.
Ah, Grasse. Ah, bonne ville de Grasse, oui. Il n'y a pas que du parfum.
Allez, on poursuit quand même notre rubrique. Notre rubrique sucré-salé. José Garcia ou Michel Denisot?
Oh, je voulais que je vous réponde à ça. Mais José, c'est mon enfant, c'est mon petit frère. Je dis petit parce qu'il n'est pas très grand, c'est un élément de ce que je suis, José Garcia. Donc, évidemment, je salue Michel au passage, mais José, évidemment.
José Garcia. Est-ce que vous êtes cap ou pas cap de défendre les Césars après la dernière cérémonie?
Oui, bien sûr, évidemment. Je pense que la dernière cérémonie, c'était tellement difficile et tellement un pari impossible à relever. Là. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de film, les gens ne les avaient pas vus, et il n'y avait pas de public dans la salle. Donc,
beaucoup de handicap.
Je me suis mis une seconde dans la peau de de Marina, qui est une actrice dingue, hein, que je vénère par ailleurs. C'était insoulevable. Donc oui, mais par ailleurs, je pense qu'il faut inventer une nouvelle forme à ce type de cérémonie. Voilà. La donne est changée, on le sait aujourd'hui, donc il faut repartir sur de nouvelles bases.
Les dirigeants de Canal l'ont entendu, vous pensez?
Je ne sais pas, parce que je ne leur ai pas posé la question, mais oui, je pense qu'ils ne sont pas sourds.
La télé ou la radio dont vous venez de parler sur France Inter?
Il faut que je choisisse entre les deux? Ah ben non, mais je ne veux pas choisir, les gars. c'est deux activités complémentaires. La radio, il y a quelque chose de très intimiste, de très immédiat, de très chaud. Et la télé, c'est au contraire, je pars à l'aventure sur les routes de France, je vais rencontrer des gens complètement allumés, je m'amuse. Non, c'est deux activités absolument complémentaires l'une de l'autre.
Et enfin, question plus personnelle, Paris ou Trouville, où vous vous réfugiez de temps en temps le week-end?
J'ai pas trop le choix en fait, parce que Paris c'est la base, c'est ici que je travaille, voilà. Donc Trouville c'est un endroit où je retrouve le goût du ciel, de la mer, les vieux copains, la famille. Donc
l'évasion.
Je peux pas choisir entre les deux.